Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère au 88.4, vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles. Nous sommes le mercredi 9 avril en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain de 9h à 10h, puis sur Spotify. Comme vous le savez sûrement, nous recevons habituellement à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Cependant, quand nous manquons d'invités, c'est l'occasion de vous partager des problématiques qui nous tiennent à cœur. C'est donc dans cet esprit qu'aujourd'hui je voulais vous parler et vous faire parler de production d'électricité. C'est une thématique que j'ai la chance de vulgariser avec la cellule de culture scientifique et technique d'Aix-Marseille Université et je vous propose de faire un petit essai sur un format purement audio pour l'heure qui vient. Je suis Félix Dédelin, accompagné aujourd'hui par Elissa Guillon sur le plateau.
Bonsoir.
Et de Marin Moffret en régie.
Bonsoir à toutes et tous.
Alors l'idée ici, ce ne sera pas de faire un cours, mais plutôt de faire émerger grâce à des questions que je vais vous poser à tous les deux, quelques notions qui m'ont paru pertinentes pour défricher ce sujet qui est très vaste, assez dense et plutôt technique. Donc je compte sur vous pour répondre dans un premier temps et me poser des questions évidemment également. Je vais commencer par une question qui est assez vague et c'est à dessein. À votre avis, ou pour vous, qu'est-ce que c'est que l'énergie ?
Vaste, vaste question en effet.
C'est une grosse colle. J'aurais dû vous envoyer un petit peu les choses en amont. Alors, je vais peut-être la faire pour vous, celle-là, parce qu'effectivement, elle est assez complexe. Alors, l'énergie en physique, en tout cas, ça se définit comme une quantité qui permet le changement d'état d'un système. Donc ça, c'est très très vague. Donc, je précise un petit peu. C'est ce qui va permettre de transformer quelque chose en le faisant passer d'un état à un autre. Voilà, c'est encore tout à fait très vaste. En fait, cette question, elle est vaste et la réponse est assez peu précise. Et c'est à dessein, parce que, comme vous allez le voir aujourd'hui, on va parler de plein de types d'énergie. Et donc, on va parler d'énergie électrique notamment, mais on va notamment parler d'énergie nucléaire, d'énergie fossile, d'énergie renouvelable. Et donc, c'est un cadre qui est très large. Et donc, c'est fait exprès. Dis-moi, Elissa.
Est-ce qu'on peut, du coup, définir les termes, quand même, de cette réponse tout à fait vague et imprécise ?
Bien sûr, lesquels ?
Eh bien, les deux que tu as cités, que je ne suis pas sûre de comprendre tels qu'ils sont employés, en tout cas.
Tu veux dire changement d'état d'un système ?
C'était quoi
J'ai parlé de quantité physique. Ok.
Quantité physique.
Ah, là, du coup, c'est à toi qui pose une belle. En fait, en gros, une quantité en physique, ça va être typiquement quelque chose qui va être mesurable. Ici, on va être capable de mesurer, tout simplement. On va utiliser pour ça des... Je vais te donner un exemple, ça sera plus simple. Sur un mode d'énergie qu'on connaît assez bien. On va parler par exemple ici d'énergie de potentiel de position ou de pesanteur.
Et donc, connais bien ça, oui.
Non, j'imagine que non, mais tu vas voir que l'exemple est assez facile à comprendre. En fait, cette quantité d'énergie, ça va être l'énergie qui est stockée par un système qui a un poids. Et donc la Terre, elle applique sur ce poids, sur cette masse, une force, une certaine force. Et en fait, quand tu vas soulever par exemple ce livre là que vous ne voyez pas mais qu'Elissa voit, si je soulève ce livre en fait, il va emmagasiner une certaine force et quand je vais le relâcher, il va la libérer en tombant. Et en fait, du coup, il va avoir une différence d'énergie entre le moment où il sera en l'air et le moment où il sera posé sur cette table ou par terre, s'il venait à tomber par terre. Cette énergie, en fait, on va pouvoir la calculer, la mesurer, la calculer. Si je te prends un exemple d'une énergie solaire, ça peut être autre chose. Tu vas très vaguement comprendre que s'il fait beau un jour de grand beau à Marseille, à midi, tu vas recevoir plus d'énergie du soleil, tu vas prendre plus facilement des coups de soleil que si tu te mets en décembre à 21h à Strasbourg. Voilà. En fait, cette notion d'énergie, elle va être quantifiable. Elle se note en fait, ça se calcule en joules en physique. Et tu as deux notions, enfin une notion qui est afférente et qui est très proche, qui est à pas confondre, c'est celle de puissance. Donc la puissance, c'est une notion qui est instantanée. Tandis que, donc là, par exemple, quand j'ai donné mon exemple du soleil, on est plus sur de la puissance. Mais si tu prend une certaine puissance pendant un certain temps, et ben là ça devient une énergie. Donc si tu restes une heure au soleil à Marseille à midi un jour de juin, eh ben, tu emmagasines une certaine énergie. Voilà.
Ok, ça c'était pour le terme quantité.
Ça c'était pour le terme quantité. Okay. Ensuite on a parlé de changement d'état d'un système. En fait tu peux assez facilement comprendre si je prends un système, c'est l'eau des pâtes que tu vas te faire ce soir en rentrant. Cette eau des pâtes, tu voudrais la faire bouillir. Et pour ça, tu as besoin d'une certaine quantité d'énergie. Et en l'occurrence, en plus de... J'ai parlé de changement d'état, et là, c'est presque un jeu de mots. En fait, on parle aussi de changement d'état quand on parle de changement d'état de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, quand tu fais bouillir ton eau d'état des pâtes, non seulement tu la fais chauffer, ce qui en soi est déjà un changement d'état, mais en plus, tu la fais bouillir, ce qui est un deuxième changement d'état. Voilà, en tout cas, un changement d'état au sens propre de physicien. Mais je vais avancer un petit peu, parce que là, on est loin de la problématique. Mais je te remercie d'avoir posé ces questions, parce que, et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est vrai que j'avais l'habitude de donner ces cours à des collégiens, des lycéens qui venaient d'avoir ou qui avaient eu peu avant des cours sur à peu près le sujet, et donc qui était à peu près et en plus qui osait moins que toi poser des questions qui dérangent, et du coup c'est très intéressant de voir que en fait voilà, on a beau se côtoyer, on n'a pas du tout les mêmes, on vit pas du tout dans les mêmes mondes à certains égards, et c'est très riche.
Me dis pas que tu te fais pas des pâtes en rentrant ce soir, Félix.
Je vais absolument me faire des pâtes en rentrant ce soir, d'autant que j'ai rien prévu. Alors moi, je voulais vous parler, comme je vous disais, de production d'énergie électrique. Et donc, du coup, je vais vous poser une question qui est un peu plus simple, j'espère, en tout cas un petit peu moins large. C'est qu'est-ce que vous connaissez comme moyen de produire de l'énergie électrique, notamment en France, mais qu'est-ce qui vous parle ?
Alors, quand on a appris son Jean Covici il y a quelques années, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est un tableau qui représente les représentations par source. J'ai l'idée de la biomasse. Mais je ne sais pas si la biomasse ensuite fait de l'électricité, mais en tout cas, ça fait de l'énergie. Il y a évidemment le nucléaire, il y a la transformation du gaz en électricité. Enfin, après, tu peux utiliser le gaz, le pétrole, tu peux faire de l'électricité avec. Tu as l'hydraulique, tu as le solaire, tu as le...
En fait, il faut à partir d'un mouvement, j'imagine, à partir d'un mouvement, tu peux créer de l'énergie et donc de l'électricité.
C'est super intéressant ce que tu dis, mais je vais juste repréciser un petit peu ce que dit Marin et on va revenir dans un instant à ce dont tu parles. Tu as parlé de biomasse. La biomasse, c'est une toute petite fraction de l'énergie qu'on produit en France. Mm-hmm. En fait, je vais déjà trier ça en trois grandes catégories. Le nucléaire, je le mets un petit peu à part. Ensuite, on va parler d'énergie fossile qui passe par la combustion, donc le fait de brûler quelque chose. Et donc là, tu as mentionné le gaz, les centrales à pétrole aussi ou à charbon, qui sont moins utilisées en France, d'ailleurs, heureusement. Donc j'ai les chiffres sous les yeux, mais en gros on a à peu près 7,5% d'énergie qui sont fossiles en France, donc 6% de gaz, 1% de pétrole, 1% de charbon. Voilà, donc ça c'est pour les énergies fossiles. Et les énergies renouvelables, donc tu les as toutes mentionnées, hydraulique, éolien, solaire, biomasse. Donc hydraulique, éolien environ 10% chacune, solaire environ 4%, biomasse environ 1%. Et tout le reste c'est du nucléaire en France. Donc tout le reste, pour les chiffres de 2023 que j'ai trouvé sur l'Agence internationale d'énergie, on est sur 64%, donc presque deux tiers de notre énergie électrique en France est produite par du nucléaire.
Je pense que c'est intéressant de dire que la France est un cas assez unique dans le monde. Il y a quelques pays comme le nôtre, mais pour beaucoup, l'électricité, on se dit « Ah, l'électricité, ça pollue pas », mais tout dépend de la source de production.
Eh bien, complètement. Tu as absolument raison de le préciser, parce que je suis tombé sur le chiffre de « On produit 12% de l'énergie nucléaire mondiale », alors qu'on est la 8e ou 10e puissance mondiale. Enfin, voilà, on n'est pas non plus les rois du pétrole, j'allais dire, assez ironiquement. Mais ouais, voilà, en fait, on n'utilise pas toute l'énergie du monde. Là, je vous parle d'énergie électrique, de production d'énergie électrique, à savoir que si on parlait de l'énergie utilisée en France, les chiffres ne seraient pas du tout ceux-là. Parce que les transports, notamment, votre voiture, vos bus, etc., enfin, nos bus, je vais m'inclure dedans, utilisent du pétrole. Et en fait, les Français utilisent plus de pétrole en soi que d'électricité à cet égard. Mais donc, quand on se cantonne à l'énergie électrique, on a effectivement beaucoup de nucléaire, un peu d'énergie fossile et pas mal de renouvelables.
Donc ça, c'est ce qui est produit et pas ce qui est utilisé, c'est ça ?
Alors, c'est ce qu'on utilise pour produire de l'énergie électrique. Okay. Donc là où ta remarque, Elissa, elle était très intéressante, c'est qu'effectivement, on a... alors déjà, on va devoir mettre quelque chose en mouvement pour produire de l'électricité. Très souvent, ça se passe avec un système de simplement un moyeu, donc une partie fixe. Moi, je vais prendre l'exemple de l'éolienne parce que c'est le plus flagrant. Mais en fait, une éolienne, elle prend le vent qui arrive, elle met ses pales en rotation. En fait, ses pales, elles vont tourner autour d'un axe fixe. Cet axe fixe, il va être aimanté. Et sur l'axe qui contient les pales, qui est entouré autour, il y a une grande bobine. Et en fait, c'est comme ça qu'on va générer de l'énergie électrique. En fait, c'est exactement le même principe qu'un alternateur dans une voiture, celui qui charge la batterie de la voiture quand vous roulez. En fait, vous utilisez votre moteur à combustion, donc rien à voir pour produire votre mouvement. Mais une fois que le mouvement il est amorcé, ce mouvement il va recharger votre batterie avec ce système d'alternateur. Et donc, effectivement, dans presque tous les... Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Non, presque tous les modes de production d'énergie, on va effectivement s'affairer à mettre quelque chose en rotation pour ensuite produire de l'énergie électrique avec le système que je viens de mentionner. Et donc, le presque, il est contenu dans le solaire. Le solaire photovoltaïque, ça fonctionne pas comme ça. C'est un autre principe électrique. En allant très très vite, mais c'est en gros les photons d'une certaine énergie qui viennent taper dans des cellules un petit peu spéciales et donc libérer les électrons des cellules photovoltaïques pour produire un courant. Voilà. Donc j'en conviens assez abstrait, mais je pose ça là pour ceux qui ont envie de faire leur petite recherche à la maison. Voilà. Et donc là, dans ce que tu me dis, Elissa, il y a un deuxième truc assez important, il me semble assez important, il y en a même deux. Il y a le fait que effectivement on a une énergie primaire, donc c'est toutes celles que Marin a énumérées, voilà. Et ensuite, il y a une chaîne énergétique qui va mener à l'énergie utile. Donc dans le cas qui nous affaire, là aujourd'hui, c'est l'énergie électrique.
Puisque ce qui vous a précisé juste énergie primaire et
bien sûr
énergie utile.
Utile, ouais. Donc comme on parle d'énergie électrique aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment on va la consommer à la fin. C'est-à-dire, vous, ce qui vous intéresse, c'est la prise électrique sur laquelle on va recharger notre portable, on va recharger, brancher notre ordinateur, etc. Tandis que l'énergie, donc ça c'est l'énergie utile, l'énergie primaire c'est l'énergie comme elle est stockée à la base, c'est-à-dire pour le nucléaire ça va être dans le noyau, d'où le mot nucléaire de certains atomes, donc en l'occurrence des atomes lourds, généralement de d'uranium enrichi ou de plutonium. Pour les énergies fossiles, ça va être de l'énergie qui est stockée sous forme chimique, donc plutôt dans les liaisons entre les atomes des molécules. Et donc ce qu'on fait quand on brûle quelque chose, c'est qu'on va casser ces grandes molécules en plus petites molécules, ça va libérer une énergie, et donc cette énergie thermique, on la récupère, ce qui va nous permettre, d'ailleurs c'est pareil, hein, une fois qu'on a cassé les noyaux d'un atome lourd, dans le cas de la fission nucléaire, c'est pareil, on va chauffer de l'eau, là on va, dans le cas d'un, où je m'en mêle un peu les pinceaux, dans le cas des énergies fossiles, on va chauffer de l'air, on va faire tourner des turbines, dans les deux cas, donc là on en revient à utiliser un mouvement une énergie de mouvement, donc d'ailleurs j'en profite, on appelle ça une énergie cinétique, donc une énergie de mouvement qu'on va ensuite transformer en énergie électrique. Donc comme on disait pour l'éolien c'est pareil, pour l'hydraulique c'est pareil, en fait on va ouvrir une vanne, l'eau elle va s'écouler à travers une turbine, la turbine elle va tourner et c'est ça qui va générer de l'électricité, voilà. Et pour la biomasse j'ai un doute, donc je vais m'abstenir de répondre à la question. Mais oui.
Qu'est-ce que tu entends par biomasse dans
Alors,
ce cas-là?
Biomasse, si je dis pas de bêtises, c'est simplement c'est la même chose, c'est tu vas brûler. Non mais en fait en vrai oui. Si je vais dire sûrement pas une bêtise. En fait la biomasse c'est simplement du bois que tu vas brûler, au lieu de le laisser se transformer en charbon, tu vas juste directement brûler le bois. Okay. Et donc la biomasse c'est un peu particulier, on le range et du coup ça va amener à ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui fait qu'une énergie c'est renouvelable à votre avis, parce que je l'ai rangé dans les renouvelables la biomasse, alors qu'on la brûle tout pareil que le charbon, ou le gaz.
Bah, qu'on peut refaire pousser des arbres, j'imagine.
Elle peut se régénérer à une échelle humaine.
C'est exactement ça. D'habitude, ce qu'on prend pour le renouvelable, c'est effectivement l'échelle d'une vie humaine. Et donc, effectivement, on peut refaire pousser une forêt ou en tout cas un petit bout de suffisamment de bois pour l'utiliser dans nos cheminées. Bon, là, en l'occurrence, pas dans nos cheminées, mais dans des centrales biomasse. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Qu'est-ce que je peux... Il y a un autre truc. Donc là, je vous ai parlé donc, de chaîne énergétique. Donc, on a cette énergie primaire. On va la transformer plusieurs fois, enfin, une ou plusieurs fois. Donc, nucléaire, thermique, mouvement, donc cinétique et ensuite électrique, par exemple, en une énergie utile. Qui en fait finalement, j'en profite au passage, donc c'est utile dans le cadre de ce qu'on vient de dire, là, l'énergie électrique qui nous arrive dans nos prises. En fait, en réalité, si derrière vous mettez un ventilateur au bout de votre prise, l'énergie utile, c'est l'énergie de rotation de votre ventilateur, donc ça redevient de l'énergie cinétique. Et en fait, ce qui est intéressant de noter dans toute cette chaîne-là, c'est que à chaque fois que vous changez votre mode d'énergie, en fait, de stockage, d'utilisation d'énergie, vous avez nécessairement des pertes. Donc ces pertes, elles sont quantifiées en physique parce qu'on appelle la notion de rendement. Voilà. Donc cette notion de rendement, elle quantifie juste simplement, c'est une division très simple entre l'énergie que vous avez à la base stockée dans la première forme et vous le divisez par l'énergie que vous récupérez sous la deuxième forme après la transformation.
Et en moyenne ? Est-ce que ça se transforme ? Est-ce que c'est très variable ?
C'est très très variable. C'est très très variable et en fait, une bonne règle générale, c'est de se dire que plus la technologie elle est aboutie, et meilleur est le rendement. Et donc par plus elle est aboutie, c'est plus ça fait longtemps qu'on l'utilise. Généralement, c'est un peu ça, parce que c'est le travail. Voilà. En tout cas, c'est en regardant les chiffres que évidemment j'ai plus trop en tête pour tous, mais y avait une espèce de tendance comme ça qui se dessinait, et parmi elles, typiquement l'hydraulique, ça, en fait, ça fait des années, des siècles qu'on utilise ça, pas forcément pour produire de l'énergie électrique, mais en fait, l'hydraulique, par exemple, c'est, il me semble, de l'ordre de 80 à 90% de rendement. Donc, c'est un très très bon rendement par rapport au solaire photovoltaïque. Il me semble que c'est plus 30% et que ça s'améliore hein, au fur et à mesure des années, mais que le meilleur rendement théorique qu'on peut espérer, c'est de l'ordre de 40%. Et ça, bon, ça, c'est un argument théorique. Je peux pas déballer. Dis-moi, Elissa.
Non, du coup, j'ai essayé de me représenter le 40%. Donc, c'est l'énergie que nous envoie le soleil. Et comparé à l'énergie qu'on peut récupérer dans nos prises, par rapport, enfin, si on a nos panneaux solaires sur le toit, mettons, il y a tant d'énergie qui arrive sur le panneau solaire et il y en a que 30 à 40% qui arrive jusqu'à notre téléphone en train de charger.
Exactement. Okay. Alors par contre, la différence fondamentale entre utiliser une énergie renouvelable. Et du coup, peu importe, sans parler de rendement, et une énergie qui ne l'est pas, à votre avis, c'est quoi ? Elle se joue sur quel... Ouais.
L'utilisation des ressources, les quantités de ressources qui nous restent après utilisation ?
Non seulement ça, mais aussi le fait que tu dois utiliser des ressources. Donc en fait, tu dois les acheter, possiblement. Par exemple, on parlait d'uranium. En fait, il ne me semble pas qu'on ait des tonnes d'uranium en France. Je crois qu'on a des réserves stratégiques qu'on n'exploite pas. Mais que pour l'instant, on l'achète, il me semble, en Australie, majoritairement. C'est des ressources qu'on doit acheter, donc ça a un certain prix. Je ne vais pas parler du gaz et du pétrole, parce qu'évidemment, c'est la même histoire. Alors que le soleil, il est gratuit. Et donc, il y a notamment cette notion, quand on essaye de quantifier est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'utiliser tel ou tel type d'énergie primaire pour la convertir en électricité, il y a cette notion de prix. En général, cette notion, donc, comme je vous parlais tout à l'heure des unités qu'on utilise pour l'énergie, donc je vous ai parlé du joule, et en fait, il y a une autre unité qui est très utilisée généralement, c'est le watt-heure ou le kilowatt-heure. Donc c'est des watts multipliés par des heures et pas des watts par heure. Ouais, je fais la précision pour ceux qui nous écouteraient parce que c'est un peu contre-intuitif. D'habitude, voilà, quand on parle de kilomètres-heure, en fait, c'est des kilomètres par heure. Là, c'est des watts-heures, fois des heures. Bref. Donc, en fait, quand on regarde le prix d'une énergie électrique, en général, on en parle en euros par kilowattheure, donc, ou par mégawattheure. Donc, ça va être simplement le prix d'une certaine quantité d'énergie. Voilà.
Sur une certaine durée.
Alors, du coup, la durée est déjà comprise dans l'énergie. Sinon, c'est la puissance. Je sais que c'est... Je te vois froncer les sourcils, mais en fait, je sais que c'est très contre-intuitif, tous ces trucs-là. Et encore plus, quand on n'a pas, comme d'habitude, j'y ai droit, un petit tableau devant pour faire des courbes. Et d'ailleurs, des fois, je me demande si c'est pas... Un truc de mathématicien et de physicien, ces courbes-là. Souvent, les élèves que j'avais dans ces ateliers-là que j'animais, je pense que ça les perdait parfois plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, on a cette représentation, les physiciens, les ingénieurs, les mathématiciens, on comprend ce qu'on fait quand on fait un axe X, un axe Y, mais Elissa, qu'est-ce que t'en penses de l'APIS et de l'ordonnée? Est-ce que ça te parle, tu penses?
Bon, ça va, j'ai la chance d'avoir fait un bac S, donc APIS et ordonnée, je suis encore.
On est tous entre scientifiques, donc j'aurais pas de réponse.
Enfin, entre scientifiques, mais ça fait un moment.
J'irai pas jusque-là.
Ouais, oui, bien
bac
sûr.
Bac S, oui.
Oui, voilà. Mais c'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà pas mal. Ce que je vais vous proposer avant qu'on continue ce débat, c'est de passer un petit morceau. Alors, j'ai cherché des petites musiques qui faisaient un petit peu référence à l'électricité, puisqu'on en parle aujourd'hui. On va découvrir ça ensemble. Honnêtement, je l'ai écouté une fois. Je trouvais les paroles mignonnes. En tout cas, il n'y a pas de cours d'électricité en musique, donc je vous laisse avec Cléa Vincent, Électricité.
Oula, il y a un truc qui est bizarre, non, je sais pas, c'est...
C'est le clavier ? Ne me dis pas que c'est encore le clavier.
Il y a un truc qui est pas... Ça
peut être quoi, ça ?
C'est ça, non ?
C'est pas ta carte ? Ah ouais, très bien.
Je voudrais atteindre l'amplitude maximale de la forme d'une onde sinusoïdale. Altérer le signal pour atteindre le point optimal. Nos rapports augmentent la fréquence. Déjà tombé dans le piège de l'accoutumance. Traversée de tension sans aucune résistance. Résistance.
La vie est un signal électrique, la musique.
Et vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles. Ce soir, nous parlons génération d'électricité, notamment avec le cas particulier, comme le faisait remarquer Marin, de la France, puisque nous sommes un des rares pays qui génère beaucoup de son énergie, c'est-à-dire presque deux tiers de son énergie électrique grâce au nucléaire. Alors, je vous propose qu'on parle un petit peu du nucléaire, parce que c'est, il y a beaucoup, je pense, d'a priori généralement sur le nucléaire en France. Enfin, il y a généralement beaucoup d'a priori sur le nucléaire. Ça vous fait penser à quoi ?
Alors, moi, ça me fait penser à des structures énormes qui me paraissent assez impressionnantes et dans lesquelles il se passe des trucs potentiellement dangereux. Et j'imagine que ça, c'est tout l'imaginaire, notamment qui est transmis par les films, les séries TV, etc., à cause des accidents qu'il y a eu et qui sont on ne peut pas les nier. Après, ce que ça m'évoque surtout, parce que bon, j'entends que sur ça, je puisse avoir plein de biais et que, en fait, je comprends pas vraiment comment ça marche et quels sont les dangers immédiats. Mais ce que je trouve absolument hallucinant et ce qui me questionne beaucoup, beaucoup, c'est le stockage de ces déchets nucléaires. Et bon, j'ai pas digué le sujet à fond, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de solution à part de les enterrer le plus profondément possible en les protégeant dans des petits caissons et en espérant que personne ne tombe dessus plus tard.
Ok, Marin.
À mon tour. Alors, toutes les questions que tu nous poses, Félix, sont des questions que nous n'avons pas préparées en amont. Donc, ce n'est pas mon plan de points, de partie, de sous-partie. Donc, de manière un peu en vrac, je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit, elle n'est pas de l'ordre scientifique, elle est de l'ordre du social et du politique, dans le sens où ça, comme tu dis, ça provoque énormément de débats sur est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre, du fait de tous ces dangers, à la fois dans son utilisation civile, avec des accidents qui peuvent arriver, comme ça a été le cas à Fukushima ou à Tchernobyl, et puis d'autres qui ont pu arriver, par exemple en 1999 à côté de Bordeaux, quand il y avait les grandes tempêtes du vent à Noël, il y avait la centrale qui avait été inondée à ce moment-là, puis après tout ce que ça peut impliquer aussi en matière d'autodestruction de l'humanité sur son volet militaire. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand on dit qu'on est pour ou qu'on est contre le nucléaire, je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte de ce que ça implique comme différence, par exemple pour la France. Et par exemple, chez les écologistes, il y a des gens qui sont écolos pro-nucléaires et d'autres qui sont écolos anti-nucléaires, mais qui ont ensuite le même programme. Or, ce n'est pas du tout possible en fonction de, si tu nous dis que 60% de l'énergie française est produite en termes d'électricité par du nucléaire. Si tu enlèves 60% de cette énergie, tu n'organises absolument pas la même société. Et je pense que ça, c'est important de se dire qu'après, tout le reste de nos activités sont liées à l'énergie qu'on utilise. Alors, elle n'est pas forcément toujours électrique, mais en tout cas, elle est liée à de l'énergie au départ. Donc, c'est la deuxième chose que ça m'évoque. Et après, ça m'évoque un dernier truc. Ça m'évoque le fait que pour que ça fonctionne, ça nécessite un niveau de complexité d'une société parce que ce sont des chaînes extrêmement longues et complexes, et que dans les cas par exemple de protectionnisme où tout d'un coup il y a des gros tarifs douaniers sur un certain nombre de ressources, ou alors des cas de sociétés qui pourraient se retrouver face à des instabilités majeures, est-ce qu'on serait en mesure de pouvoir maintenir la sécurité des sites, sachant que même si un site est fermé, il faut continuer à entretenir le site même après sa fermeture, notamment pour tout ce que ça implique en matière de refroidissement. Donc ça me pose des questions sur si par exemple il y a des très grosses sécheresses en France en 2040 et que on est avec une sorte d'État autonome qui ne gère plus trop sa ressource, est-ce qu'on aura toujours suffisamment d'eau, suffisamment d'ingénieurs formés pour comprendre la difficulté des mécanismes, et suffisamment de ressources pour pouvoir assurer la sécurité de tous les complexes industriels. Voilà ce que ça m'évoque.
C'est très très dense. Merci tous les deux pour vos réponses. Je vais essayer de répondre en tout cas sur les points où je me sens de le faire, parce que je ne suis pas expert de la question. Elissa, toi tu as parlé Marin, ça rejoignait Marin sur les accidents, sur aussi le volet militaire un petit peu de cette possible destruction. Alors, Sur le volet accident, il faut savoir quand même que les maladies respiratoires qui sont liées aux émissions de gaz à effet de serre en Europe, elles tuent 200 000 personnes par an. Voilà. Donc ça, c'est en fait beaucoup plus que ce que Tchernobyl et Fukushima cumulés ont fait comme dégâts. Alors je me souviens pas, j'étais gamin et j'ai pas trop lu sur l'accident de Bordeaux que tu mentionnais tout à l'heure, Marin, mais en fait, c'est beaucoup plus, je pense, impactant de se dire que voilà, il y a un cœur en fusion qui génère une explosion, qui fait que voilà, il y a des nuages des volutes de gaz toxiques qui arrivent en fait sur des populations entières, comme ça a pu être le cas pendant Tchernobyl. Dès qu'on parle de nucléaire, on a toujours immédiatement en tête Hiroshima et Nagasaki, même si on sait très bien qu'une bombe nucléaire, c'est pas du tout la même technologie qu'une centrale nucléaire, puisque dans une bombe nucléaire, le but c'est de faire détonner le plus rapidement possible le plus d'énergie possible, de la libérer tout simplement. Alors que, en fait, dans une centrale, le but c'est d'en tirer le plus haut rendement. Donc, quitte à le faire lentement, mettre un petit peu plus de carburant, à chaque fois, d'en mettre plus dans la centrale, mais de le laisser plus longtemps pour qu'il s'extraie, au fur et à mesure, avec le plus de rentabilité possible. Donc ça, c'est un premier élément. En fait, le fait que ce soit accidentogène, c'est aujourd'hui, en tout cas, pas trop le cas, pas plus le cas que pour des centrales à pétrole ou à charbon ou à gaz, qui vont générer des particules fines derrière, des émissions de CO2 qui vont réchauffer l'atmosphère, etc. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, en tout cas. Ensuite, par rapport aux déchets, alors ça c'est une question sur laquelle je suis vraiment pas trop calé. Il me semble qu'effectivement on génère assez peu de déchets en fait, finalement, dans le sens en termes de volume. J'ai plus l'ordre de grandeur en tête, mais ça se compte en même pas une dizaine de piscines olympiques, ce qu'on a rempli depuis les années 50 en déchets nucléaires, terminaux, donc c'est-à-dire ceux qu'on peut pas réutiliser du tout. C'est quand même
dangereux, non ? Parce qu'il y a toute une gradation. Je suis pas un expert non plus, mais
c'est ça. Il y a toute une gradation. Donc les déchets nucléaires terminaux, effectivement, c'est les plus dangereux. C'est pas les seuls. Mais une dizaine de piscines nucléaires pour 70 ans, 80 ans bientôt d'électricité française qui est en bonne partie créée grâce au nucléaire. Ça reste pas sur un territoire qui est la France. Ça reste quand même pas des masses. Après, effectivement, il me semble, mais là encore une fois, prendre avec des pincettes, que il y a des moyens de confinement, donc chape de plomb, etc. Effectivement, comme tu le dis, enfouissement, qui sont étudiés pour. Derrière, par contre, tu as dit un truc qui m'a marqué et qui est intéressant, c'est je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais il y a un peu cette histoire de qu'est-ce qui se passe si on oublie un petit peu où ça s'enfouit. Et ça m'évoque quelque chose d'assez rigolo. En fait, il y a une vraie question qui se pose par rapport à ça, c'est est-ce qu'on met un panneau en haut ? Attention, on a enterré des déchets nucléaires ici ou pas ? Et la question, elle est formulée, il me semble, sous cet angle de, en fait, si tu dis pas à des gens qu'il y a quelque chose, eh ben, ils vont pas chercher quelque chose. Alors que si tu mets un panneau, les gens vont se dire, mais même s'ils comprennent pas la langue, dans plusieurs générations, plusieurs civilisations, qui vont tomber sur ce panneau, ils vont se dire, ah, mais ce panneau, il est peut-être pas là pour rien, et ils vont se mettre à chercher quelque chose et possiblement le trouver.
C'est ça, je lisais un article et je peux vraiment plus le citer, mais la question c'était comment faire passer le message à, en effet, peut-être dans 3-4 civilisations, à des gens qui n'ont plus du tout les mêmes bases que les nôtres et le même langage que le nôtre, comment faire comprendre que là, il ne faut pas y aller.
Oui, et bon, ça, c'est une question qui est un petit peu futuriste, on va dire, je ne sais pas si c'est le mot, mais... ou non futuriste, malheureusement. Enfin, en tout cas, elle est assez intéressante, assez curieuse. Marin, tu as pas mal parlé. Alors ça, c'est vrai que j'y avais jamais vraiment trop réfléchi, mais effectivement, on utilise l'eau de nos rivières pour juste refroidir les centrales, notamment, mais simplement en fait pour les faire fonctionner dans la mesure où c'est ce que j'expliquais. On va faire on va casser ces gros noyaux d'atomes pour faire chauffer un bain, qui va faire chauffer de l'eau, qui va entraîner une turbine, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'eau ? Et ça, j'y avais jamais trop pensé, mais c'est vrai que c'est possiblement un danger. J'imagine calculé, puisque aujourd'hui on est quand même en train de continuer à sans. Enfin, déjà on commence à avoir nos premiers réacteurs qu'on se pose la question de comment démanteler. Donc j'espère, j'imagine, je pense que si on y a pensé tous les trois, le CEA notamment, donc le commissariat à l'énergie atomique y a pensé aussi, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette problématique sur les prochaines années? Parce qu'en fait, oui, on démantèle des centrales, mais on continue d'en construire. On continue d'en construire tout simplement parce qu'effectivement, nous, on dépend beaucoup de cette énergie nucléaire, notamment parce que, en fait, on a cette, y a une certaine compétitivité en termes, donc on parlait tout à l'heure du prix au kilowattheure. Donc certes, l'installation d'une centrale, c'est volumineux, c'est cher, c'est pas très beau. Voilà, ça crée ces volutes de vapeur d'eau d'ailleurs, hein, soit dit en passant, mais c'est pas cher en fait, c'est pas si cher que ça au kilowattheure en production derrière. Donc sur le volet économique, en fait, c'est plutôt positif. Sur le volet environnemental, bah en fait, finalement, on n'émet pas de gaz à effet de serre. Je crois que tu voulais dire un truc.
Est-ce que c'est pas cher? Et franchement, la question que ça me pose, c'est est-ce qu'on a pris en compte le prix de l'ensemble du complexe industriel pour que ça soit pas cher, tu vois? Parce que est-ce que dans le prix, on prend déjà en compte le fait que derrière, il va falloir démanteler la centrale, ou alors si jamais à un moment il y a un accident du fait d'une rupture d'approvisionnement en eau? Parce que typiquement, le Rhin, il me semble que parfois il y a des étés, le Rhin c'est un peu bas, non?
Oui.
Voilà, bon, bah Fessenheim c'est sur le Rhin, il me semble. Même si Fessenheim, je sais pas si elle s'est fermée d'ailleurs, ou toujours pas.
Il me semble que oui.
Mais il peut y avoir des années avec des sécheresses absolument considérables, là où il y aura d'autres années où, comme c'est le cas cette année, il pleut beaucoup. Est-ce que dans le prix de final de l'énergie nucléaire, on a pris en compte la production aval, la production et ensuite le démantèlement?
Eh ben, c'est une très bonne question. Je pense que le démantèlement a jamais été correctement... il me semble que c'est un des gros débats en ce moment, c'est que ça n'a jamais été vraiment chiffré en amont correctement. Et que, mais en fait, j'ai envie de dire, comme tous les gros projets industriels français, enfin même du monde, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on sous-chiffre toujours ce qu'on fait. C'est-à-dire, je vais prendre un autre exemple, comme ça je ne vais pas taper dans ce que je ne connais pas, mais quand on vous dit « ouais, je vous fais une fusée pour 500 millions d'euros d'investissement », en fait, vous n'allez jamais dépenser 500 millions d'euros d'investissement. 500 millions, c'est le début, vous allez avoir un petit démonstrateur, juste assez pour que la personne qui vous ait dit ça vous dise « ah, mais si, regardez, j'arrive à faire une fusée, bon, alors elle ne porte pas encore un satellite jusqu'en orbite de la Terre, mais par contre, elle arrive à faire un saut de puce et puis elle vous porte 20 kilos. » Et en fait, c'est toujours comme ça, en fait. C'est le jeu de les gens veulent pas donner de sous si on leur présente la facture complète dès le début, et en même temps il faut des sous pour commencer une recherche quelconque. Et en plus, il y a le biais de, une fois qu'on a commencé à investir dans quelque chose, on n'a pas trop envie de s'arrêter, même si on sait déjà que c'est une peine perdue.
C'est un piège abscon.
Voilà, voilà, il y a ça. Mais par contre, ce que tu soulèves, donc, c'est assez intéressant. T'as tout à fait raison de distinguer d'une part le prix de l'installation et d'autre part le prix de l'opération et de la maintenance.
Parce que là, je ne sais pas exactement où est-ce que tu veux nous amener, si tu veux nous faire une démonstration ou si on rentre dans un débat sur cette question.
Moi, généralement, j'avais prévu de parler aussi un petit peu des énergies renouvelables. Plus généralement, si vous voulez vous lancer sur le débat du nucléaire, on peut, mais...
Je pense, très sincèrement, je serais content de continuer à écouter ta présentation, parce que du fait que nous n'ayons pas préparé et que nous soyons tes cobayes, Félix, j'ai pas envie de me lancer dans un débat du café du commerce avec des chiffres sur lesquels je n'ai pas fait mes recherches avant. Malgré tout, un certain nombre de réflexions que je peux avoir aussi, c'est que là où je te rejoins sur le nucléaire, c'est que ça favorise aujourd'hui la question de la souveraineté française. Et ça revient beaucoup en ce moment sur la question de la menace russe, du fait que la France soit une puissance nucléaire sur le plan militaire. Mais je trouve que il y a beaucoup de personnes qui sont là à dire voilà, nous on est autonome en énergie, on a de nucléaire, et sans jamais se poser la question de l'origine des approvisionnements, par exemple. au-delà de ça. C'est que, ok, super, on a des centrales chez nous. Malgré tout, l'uranium, il n'est pas extrait sur le territoire métropolitain français. Il est dépendant de chaînes d'approvisionnement qui se situent sur d'autres territoires, principalement en Afrique, en Ukraine aussi. Et donc, si à un moment, on vient à ne plus être sur ces territoires-là, nous n'aurons plus accès à cette ressource-là, ça pose immensément un nombre incalculable de questions sur comment on s'approvisionne auprès de, sur ces ressources-là. Est-ce qu'on les achète, on les achète au juste prix? Quelles sont les relations que la France a avec les États approvisionneurs en uranium? Et après, quand tu disais qu'on sous-chiffre toujours... Si jamais ta fusée elle fonctionne pas, bah, au pire elle restera dans un garage. Alors que ta centrale nucléaire, tu peux pas l'arrêter du jour au lendemain comme ça aussi, tu vois.
Et je suis complètement d'accord. Mais ce que je voulais dire par là, c'était juste que si dès le début on avait demandé à chiffrer les centrales nucléaires en comptant leur démantèlement, déjà qu'en chiffrant généralement le début d'un programme nucléaire, on se plante d'un ordre de grandeur, c'est-à-dire d'un facteur 10. Je suis pas sûr qu'on aurait eu envie de juste continuer à mettre des sous dans le développement d'un tel programme. Par contre, tes questions géopolitiques, elles sont super intéressantes, mais je vais prendre le contre-pied du coup. Pourquoi est-ce que on fait pas que du renouvelable dans ce cas-là ?
Parce que c'est une question de la puissance dont tu parlais tout à l'heure. C'est que quelle est la capacité de puissance de renouvelable ? Alors au-delà de toute la partie pareille, enfin. Si jamais tu veux mettre des panneaux solaires qui vont produire autant qu'une centrale nucléaire, combien de kilomètres carrés il va falloir que tu couvres de forêt? Parce que ensuite tu vas avoir de la mise en compétition sur l'utilisation d'espace. Typiquement, il y a des montagnes dans le Luberon où il y a des combats qui sont extrêmement musclés sur le fait de raser des forêts sur des montagnes pour mettre des centrales solaires à cet endroit-là. Est-ce que c'est pertinent, tu vois?
Ouais.
Et puis ensuite, c'est pas une énergie qui est constante. L'énergie renouvelable, quand il n'y a pas de, s'il n'y a pas de vent ou qu'il n'y a pas de soleil, bah, il n'y a pas d'énergie.
Eh ben absolument, et c'est là que je voulais t'emmener en fait, c'est qu'effectivement l'énergie renouvelable, effectivement il n'y a pas besoin de payer de gaz, enfin il n'y a pas besoin de payer de matières premières, donc il n'y a pas besoin d'avoir des partenariats commerciaux ou diplomatiques avec d'autres pays qui vont nous les fournir, parce que c'est vrai qu'en France on est assez pauvre sur ces ressources là mais par contre la contrepartie, c'est que c'est des énergies qu'on dit intermittentes du coup. Et donc là j'en profite pour glisser le petit truc de physicien, c'est donc on appelle ces énergies intermittentes, et en fait ce qu'on mesure quand on parle de ces énergies là c'est ce qu'on appelle le taux de charge. Donc en gros c'est combien de pourcents du temps elles vont être capables de produire le max qu'elles pourraient. Si elles étaient... imagine, tu as ton panneau solaire, il est complètement ensoleillé comme un midi de juin à Marseille. Ça, c'est son 100%. Et ben, en fait, le truc, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, ton soleil va décliner un petit peu. Donc déjà, il ne va pas être tout le temps à 100%. Et puis en plus, la journée, elle dure que à peu près 16 heures, quoi, et encore en été. Voilà. Et donc du coup, ce taux de charge, ça va être juste la puissance que ton panneau solaire il va délivrer, divisé par la puissance qu'il délivrerait s'il était... c'est dans l'autre sens ? Non, c'est dans ce sens-là. Divisé par la puissance qu'il délivrerait s'il était toujours à Marseille à midi en juin. Voilà. Donc effectivement, ces énergies renouvelables, elles ont un certain taux de charge qui est pour le solaire prévisible. Pour l'éolien, ça ne l'est pas vraiment. Tu peux faire des moyennes sur l'année, mais si un jour il n'y a pas de vent et que tu ne peux pas faire fonctionner tes hôpitaux, c'est quand même problématique. De la même façon, si c'est la nuit et que du coup les patients en réa, ils ne peuvent plus avoir accès à leurs soins, c'est problématique. En fait, ce que ça pose, ce que ça montre juste cet argument-là, c'est de dire qu'il nous faut des énergies pilotables, donc par opposition à intermittentes, merci, je me perds. Et donc il nous faut des énergies pilotables, et du coup lesquelles on choisit. J'en profite pour glisser que il y a aussi, donc on a parlé tout à l'heure de... Bah, vas-y, dis-moi Marin. Ouais.
J'ai juste envie de compléter en fait... Moi, ce qui me semble intéressant d'avoir en tête quand on t'écoute, c'est l'aspect absolument non automatique de tout ce qui nous semble finalement très très commun. Appuyer sur un bouton, l'électricité arrive, tu ouvres ton frigo, il est tout frais, mais se poser la question de se dire que oui, c'est pas pilotable si jamais c'était pas de l'électricité qui était constante dans sa production, donc on ne pourrait pas remplacer uniquement par du renouvelable. Le fait que on n'a pas pris en compte tous les précoûtants de la totalité de ce que ça implique, et donc en fait on avance un petit peu à l'aveugle sans trop savoir où on avance là-dessus. Et ça me semble important, ne serait-ce que de commencer à poser la conscience de ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, on l'a en abondance, mais en le payant en dessous de son prix et en oubliant à quel point c'est pas un acquis.
Absolument. Elissa, j'ai l'impression que tu voulais...
Ouais, si tu veux nous parler un peu plus des énergies renouvelables et du coup de toute cette problématique due au fait qu'elles soient intermittentes et que donc parfois il y en a, parfois il n'y en a pas, j'imagine que ça pose la question de la manière de stocker cette énergie.
Et bah c'est super que tu me poses la question parce que c'est vers là que j'allais essayer de vous emmener. Et effectivement, il y a cette question de comment on stocke de l'énergie électrique, généralement, la réponse est très mal. En fait, on peut... peu, voire pas la stocker, à tel point que les jours de grand vent dans certaines régions où on a beaucoup de parcs éoliens, ce qu'on fait, c'est qu'on revend aux voisins limite à des prix négatifs. C'est-à-dire que on les paye, voilà, c'est ça, pour nous décharger de notre énergie. Parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un parc électrique qui génère trop d'électricité. C'est pas possible.
Qu'est-ce que ça fait ?
Des surcharges, j'imagine, tu sais. Voilà, là c'est quand même un peu ancien, mais je sais pas si en physique t'as fait cette expérience, mais ça doit être les premiers cours de physique que j'ai dû faire ça. C'est, tu prends de la paille de fer et tu les mets sur une pile 9 volts, des deux côtés de la pile 9 volts. Et en fait, ta paille de fer, elle brûle. Qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre là? C'est juste que si tu mets trop de courant dans un câble qui est pas fait pour, il va juste fondre. Et donc, du coup, tu vas détruire ton installation électrique. Et donc, évidemment qu'on a tout un système, et Marin il parlait de la complexité, donc ça c'est un dernier point que j'ai pas trop abordé, mais généralement le fait d'avoir une installation électrique dans un pays, c'est déjà d'une complexité remarquable. Effectivement, le fait d'avoir des installations nucléaires, c'est d'une complexité remarquable. Ça fait que derrière tu as tout un système d'écoles, d'ingénieurs notamment, qui vont devoir travailler sur le sujet, sur l'évolution de la problématique du sujet. Je m'éloigne un petit peu, mais tout ça pour dire, c'est vrai que en fait, c'est d'une complexité qui est vraiment pas sans bornes, mais avec très peu de bornes, avec beaucoup de spécialistes, des spécialistes qui communiquent comme ils peuvent entre eux, qui forcément c'est des acteurs industriels qui cherchent aussi à tirer les ficelles pour prendre l'avantage de leur côté aussi. Voilà. Donc en fait, c'est ces questions très très vaste, et vu que tu mentionnes le stockage, je vais juste poser un petit élément de réponse quand même, parce que le labo dans lequel je bossais, il y a une grosse partie de l'équipe dans laquelle je travaillais qui travaillait sur l'hydrogène. Et en fait, l'hydrogène, j'ai perdu la terminologie exactement, mais en gros l'idée c'était d'utiliser l'énergie qu'on a en trop pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau. En fait, tu sépares les molécules d'eau, ça te fait de l'hydrogène et de l'oxygène. L'oxygène, tu le relâches dans l'atmosphère, l'hydrogène, ou tu le gardes d'ailleurs pour des hôpitaux par exemple. Ouais. L'hydrogène, tu le stockes. Et ensuite, cet hydrogène, tu vas pouvoir l'utiliser dans une centrale à combustion, comme les énergies fossiles, sauf que l'hydrogène, contrairement au gaz naturel, donc je vais vous donner les molécules comme ça, mais c'est CH4, donc il y a un petit C dedans, c'est le carbone, donc c'est celui-là qui va faire du CO2. Si tu prends le charbon, c'est pareil, c'est des longues chaînes carbonées avec beaucoup de carbone. Si tu prends de l'essence, c'est des longues chaînes carbonées avec des carbones et des hydrogènes. En fait, l'hydrogène, c'est HH, c'est dihydrogène, il n'y a pas de carbone dedans. Donc lui, par contre, il a d'autres problématiques, hein, notamment celle du stockage. D'ailleurs, il se stocke mieux que l'énergie électrique, mais ça reste la plus petite molécule, donc elle fuit facilement. Mais par contre, cet hydrogène, il ne génère pas de gaz carboné quand on le brûle. Donc voilà, ça c'est une des pistes qui est envisagée, c'est de stocker, d'utiliser l'énergie électrique pour générer du dihydrogène qu'on va stocker plus facilement que l'électricité, et qu'ensuite on va pouvoir utiliser pour le brûler dans des centrales à combustion, en fait, simplement. Ou éventuellement, comme carburant, typiquement les fusées européennes Ariane, elles fonctionnent à l'hydrogène depuis leur début, en fait. Voilà. Ça va bientôt être la fin, donc je ne sais pas si vous aviez un petit point que vous vouliez aborder encore.
Il nous reste environ 5 minutes.
Un petit 5, voilà. Ok. Et bah, dans ce cas-là, moi, j'avais envie de vous parler un petit peu. Alors attendez, je relis rapidement mes notes parce que j'ai scrollé. Ah oui, si, voilà. En fait, j'ai quelques petites ressources à partager pour les auditeurs, les auditrices qui auraient envie de poursuivre l'aventure, d'en apprendre un petit peu plus ou à leur niveau de satisfaire une certaine curiosité. Donc je me suis noté quelques ressources éducatives un peu pour tous les âges, je pense. Il y en a certaines, bon, je préciserai au fur et à mesure. Mais la première, c'est que nous, donc à la Forêt des Possibles, on a un petit partenariat avec la Cité des Transitions. Et la Cité des Transitions, dans sa newsletter, faisait la petite promo de demain 18h30 au Labo Friche, donc à la Friche de la Belle de Mai. Je vous lis le petit pitch. Sans S. Explorez la transition énergétique avec EnergyMix à travers des ateliers interactifs, découvrez les scénarios de transition, mesurez les risques, interrogez les experts, explorez les initiatives locales pour un avenir durable. Donc c'est avec des experts .e.s d'énergie partagée, d'Enercoop et de Massilia Sun System. Donc je connais pas spécialement énergie partagée, Enercoop. Massilia Sun System, je sais que c'est une initiative marseillaise qui installe des panneaux solaires, en fait une entreprise marseillaise de panneaux solaires.
Marrant. Oui, et d'ailleurs qui a été reçue à la Forêt des Possibles il y a maintenant 3 ans. Donc si jamais ça vous intéresse de creuser cette question, vous pourrez retrouver dans tout notre historique sur Spotify cette émission précisément.
Il me semblait aussi l'avoir vu passer. Voilà, donc ça c'est demain à 18h30, Labo Friche, donc à la Friche. Ensuite, je m'adresse là particulièrement, puisque je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de vulgariser ces thématiques donc avec Aix-Marseille Université. Donc pour les professeurs de collège ou lycée, on va dire de la 4e à la 2e qui nous écouterait. Donc il y a la cellule de culture scientifique et technique de Aix-Marseille Université qui dispense ce genre d'atelier gratuitement, donc sous différents formats. Vous avez soit des chercheurs qui peuvent venir parler de leurs recherches dans vos classes, soit vous simplement qui allez faire appel à eux, enfin bloquer un créneau avec eux et emmener vos élèves là-bas, et donc ils vont pouvoir faire 2 ateliers de médiation scientifique sur plein de sujets. Je vous en donne quelques-uns au passage, mais de mémoire il y avait des thématiques sur donc les énergies, sur les parfums, on avait sur les environnements aussi notamment, donc je mets un S parce que on parlait non seulement d'environnement de l'air, mais aussi de l'environnement sonore, voilà. Je continue à dérouler, donc n'hésitez pas, CSTAMU, pour cellule de culture scientifique et technique, et vous allez pouvoir trouver les renseignements assez facilement. Ensuite...
On peut en donner aussi ou pas?
Ah bah vas-y, voilà, bien sûr. Je t'en prie.
Moi, il y en a une qui me semble absolument nécessaire d'écouter. Ce sont les conférences de Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, c'est une personne qui peut créer du débat autour de sa personne et autour de ses positions, notamment justement sur la question du nucléaire. Malgré tout, ça devrait, à mes yeux, être vivement conseillé dans notre intérêt général d'écouter sa conférence qu'il a faite à Sciences Po, qui s'appelle « PIB ou CO2, il faut choisir » et qui dure 2 heures. Pourquoi ? Parce que en 2 heures, Jean-Marc Jancovici a un talent particulier, c'est celui de la pédagogie. Il arrive à nous faire comprendre les enjeux de grandeur. Quelles sont les sources de production d'énergie ? Quelles sont leurs répartitions ? En France, à l'étranger, est-ce qu'il y a eu une transition dans la production énergétique ou est-ce qu'il n'y en a pas eu ? Et qu'est-ce qui se passe dans un monde où on produit trop de CO2 et où en plus la ressource se contraint ? Je trouve que c'est absolument fondamental parce que ça permet ensuite de comprendre que l'énergie étant à la source de toutes les activités humaines, on ne peut pas penser à l'alimentation sans penser à l'énergie, on ne peut pas penser au transport sans penser à l'énergie, on ne peut pas penser au logement sans penser à l'énergie. C'est vraiment un sujet absolument central qui va irriguer toutes nos activités humaines et je trouve que c'est extrêmement bien expliqué. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, ensuite il a fait tout un corpus de cours à l'école des mines par épisode il y a 5 épisodes de 2 heures chacun. Que j'ai eu l'occasion d'écouter pendant le confinement. Il n'y aura peut-être pas de confinement pour avoir autant de temps pour le faire, mais je trouve que derrière, ça permet de comprendre à peu près un très grand nombre des débats stratégiques qui peuvent se passer sur des questions géopolitiques ou sur des questions de souveraineté industrielle en France, à l'étranger. Enfin, vraiment, c'est vivement conseillé d'écouter ça.
Et alors, moi, je rebondis sur Jean-Marc Jancovici parce que j'ai sur la table le plan de transformation de l'économie française qui a un volet consacré à l'énergie et donc qui décortique en fait généralement comment est-ce que la société française sous différents volets devrait se transformer pour atteindre les objectifs de décarbonation qu'on s'est fixés. Mais j'enchaîne, puisque c'est un peu une passe-d, avant d'arriver ici, j'ai consulté sur l'arbre des imaginaires. Je suis allé, donc arbredesimaginaires.fr. Vous avez une petite loupe en haut à droite où vous pouvez chercher des concepts. Et si vous cherchez le concept d'énergie, vous avez notamment les conférences de Jancovici que Marin citait tout à l'heure. Et enfin, je vous donne trois dernières petites ressources avant de rendre l'antenne. Donc EDF et moi, sur votre stresspace perso, vous pouvez regarder en fait votre utilisation quotidienne, voire par horaire d'énergie électrique dans votre maison. Donc vous verrez qu'en hiver, votre chauffage y consomme. Ensuite, j'ai un EcoMix, donc ça s'écrit ECO2 Mix. Donc ça, c'est une petite plateforme qui vous donne des renseignements sur la production d'énergie électrique en direct sur la France. Et donc qui le fait par secteur, donc par mode d'énergie, enfin par mode de production, donc par énergie primaire. Voilà, donc ça c'est intéressant et ça met en lumière notamment ces problématiques d'énergie intermittente, etc. Et enfin, la dernière que j'avais en tête, c'était Electricity Maps. Donc c'est en fait une grande carte du monde qui présente par pays ou par région la part d'énergie qui est décarbonée, voire renouvelable, par pays et donc par heure de la journée, avec notamment les imports-exports entre les différents pays qui sont notés. Voilà, j'espère que ne pas avoir été trop technique, parce que ça a tendance à être mon petit défaut à moi. J'espère que le sujet vous a intéressé. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à converser avec vous, Elissa et Marin. Et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.
Et on peut te féliciter aussi, parce que ça fait maintenant une saison que tu es parmi nous dans l'équipe Félix. C'était ta première ce soir en tant qu'animateur en chef. Yeah. Et tu nous as proposé une masterclass qui est d'intérêt général, je pense.
Ben, merci beaucoup.
Merci Félix, on t'a écouté, suivi et j'ai beaucoup apprécié.
Super, bonne soirée à toutes.
Très bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt.